Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Les œnologues et les créateurs de parfums sont capables de véritables prouesses avec leur nez. Mais qu'en est-il pour nous? Comment les odeurs interviennent-elles dans notre perception du monde et nos relations avec les autres? Percevons-nous tous les odeurs de la même façon? Dans le reste du monde animal, quelles sont les espèces dotées du meilleur odorat? Aujourd'hui, La Tête au Carré vous emmène par le bout du nez à la découverte des odeurs en compagnie d'un spécialiste de neurobiologie olfactive, Roland Salès. Les auditeurs peuvent d'ores et déjà lui adresser leurs questions en se rendant sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Selon un groupe d'experts internationaux, la résistance bactérienne aux antibiotiques causera en 2050 plus de morts que le cancer, devenant la première cause de mortalité dans le monde avec 10 millions de morts par an. Le règne annoncé et désastreux des bactéries résistantes est à la une de la science. Aujourd'hui, nous en parlerons avec la microbiologiste Marie-Hélène Nicolas Chanoine et le médecin Dominique Dupagne. Et pour réagir sur cette information, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Vous connaissez le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le programme de cette Tête au Carré réalisé par Violaine Ballet, préparé par Camille Jusot, Axel Villard et Gabriel Bénet.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Roland Salès.
Bonjour.
Vous avez dirigé le laboratoire de neurobiologie olfactive de l'INRA de Jouy-en-Josas. Faut-il sentir bon pour séduire? C'est le curieux titre du livre que vous signez aux éditions Quae et qui paraîtra en janvier prochain. Alors, quand sent-on nos odeurs pour la première fois dans notre vie?
Dès le ventre de notre mère.
C'est-à-dire trois mois avant de naître, on commence déjà à sentir dans
tout
le liquide amniotique?
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on sent? Est-ce qu'on garde une mémoire de cette...
On garde cette mémoire toute sa vie. On sent bien sûr l'odeur de sa mère, mais aussi l'odeur de ce qu'elle mange, l'odeur éventuellement de ses parfums. Peut-être certaines odeurs environnementales arrivent jusqu'au fœtus.
Combien d'odeurs est-on capable de sentir en théorie?
On va dire quelques dizaines de milliers.
Ouais. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Le sens de l'odorat est un peu négligé. Il mérite pourtant que l'on s'y intéresse. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, Roland Salès. Les odeurs sont à l'honneur dans La Tête au Carré. Et bien sûr, nous attendons vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Léon, t'as l'air malade?
Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine.
Et sous antibiotiques?
Non.
Donc t'es pas malade?
Si, j'ai une angine.
Alors t'es sous antibiotiques?
Non.
Alors t'es pas malade?
Les antibiotiques, c'est pas automatique.
Le slogan a plutôt bien été reçu et intégré par le grand public, mais il semble que ce ne soit pas suffisant, puisque le rapport d'un groupe d'experts internationaux indique qu'en 2050, les nouvelles résistances des bactéries aux antibiotiques causeront 10 millions de morts par an, soit plus que le cancer. Pour parler de cette prévision alarmante qui constitue notre une de la science aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Hélène Nicolas Chanoine, professeure de microbiologie et chef de service à l'hôpital Beaujon, spécialiste des souches résistante. Et puis notre chroniqueur santé, le médecin généraliste Dominique Dupagne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Marie-Hélène Nicolas Chanoine, que dit exactement ce rapport commandé par le gouvernement britannique?
Il dit deux choses. Il parle de la mort et il parle de l'argent. Et son objectif un peu est d'essayer de matérialiser pour tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'on parle toujours de résistance, mais c'est pas très clair pour les gens. Et donc, il dit, effectivement, qu'il prévoit, selon des modèles mathématiques, 10 millions de morts par an liés à la résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire à des infections non traitées. Mmh. Et puis, il dit aussi que ça va avoir un impact sur le PIB de tous les pays.
C'est ça, une baisse de 2 à 3,5% du PIB mondial dû à cette résistance aux bactéries. Il y a effectivement un volet, des conséquences économiques dans ce rapport. Si on s'intéresse aussi aux victimes, aux morts, ils ne sont pas répartis également sur la planète.
Tout à fait.
5 millions en Afrique, 4 millions en Asie, 400 000 en Europe et aux USA. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, combien de morts sont attribuées à la résistance des bactéries aux antibiotiques?
On dit que c'est à peu près, que c'est 100 000 par an. Alors, c'est la résistance aux antibiotiques, c'est la résistance aux antimicrobiens, parce que dans les chiffres qu'ils ont pris, il n'y a pas que les bactéries, il y a le... Si on fait des hypothèses sur les virus, la HIV, si on fait des hypothèses sur ce qui est la malaria, le paludisme, enfin, ils ont pris trop. Mm-hmm. Si six micro-organismes phares.
Voilà. Oui. Et alors, arriver à une situation aussi critique que celle décrite, c'est-à-dire en 35 ans, autant une telle augmentation de victimes, ça vous paraît pessimiste ou réaliste, ce rapport ?
Les deux.
Je sens que la question vous embarrasse. Dominique Dupagne.
Pessimiste, oui, si c'est ça qui arrive, c'est, voilà, d'accord. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pris des modèles. Donc, dans un cas, ils ont dit, on imagine que toutes les infections seront dues à des infections résistantes. Voilà. Donc là, on arrive aux 10 millions de morts. Un autre modèle dit, on estime qu'il va y avoir 40% et que c'est les augmentations des infections. Bref, ils arrivent à des mêmes calculs. Alors comment, si on en arrive là, c'est qu'on ne fera rien. Et l'objectif, c'est de faire des choses. C'est une des raisons pour lesquelles ce rapport a été demandé.
D'où votre embarras. Finalement, vous le trouvez pessimiste, mais vous trouvez qu'il a du bon parce que peut-être qu'il va faire réagir.
Bah oui, on va dire ça.
Voilà.
Mais enfin, en même temps, je me suis posé la question en disant, mais comment chacun va pouvoir s'approprier ça ? Voilà. Si jamais tout ça est divulgué, que tout le monde... Comment chacun va se l'approprier au sens de dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je vais faire, moi.
On va écouter Dominique Dupagne, votre avis sur ce rapport.
Déjà, une projection à 35 ans, c'est toujours extrêmement hasardeux. Hein. C'est vraiment un modèle, c'est pour sensibiliser. Parce que si on a fait des prévisions sur le devenir des maladies infectieuses en 1930, dans les 35 ans à venir, on serait trompé aussi de la même façon, probablement. Mais c'est un vrai problème, alors que ça soit 5 millions, 1 million, 10 millions, c'est pas tellement le sujet. Et en effet, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu contre ça ? Alors, on parle beaucoup des prescriptions d'antibiotiques qui peuvent être excessives en ville ou à l'hôpital. Ça existe, mais enfin... Il faut quand même être réaliste, l'essentiel ne vient pas de là. On sait qu'il y a d'énormes problèmes d'antibiotiques dans les élevages, que ça génère aussi beaucoup de résistance. Et par ailleurs, dans la mesure où les antibiotiques sont en accès libre dans de grandes parties du monde, une pression sur une espèce d'assagissement individuel face aux antibiotiques, c'est toujours une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, clairement.
Mm-hmm. Marie-Hélène Chanoine, Nicolas Chanoine, pardon, vous êtes d'accord avec ça ? C'est avant tout au niveau de l'utilisation un peu industrielle de ces antibiotiques, notamment dans l'élevage, qu'il faudrait réglementer ?
Bon, je pense d'abord, il faut dire que dans l'élevage, enfin, dans le monde des vétérinaires, il y a beaucoup de réflexions et par exemple, il y a déjà eu l'arrêt de l'utilisation de certains médicaments dans les élevages pour traiter les animaux, mais pour augmenter leurs facteurs de croissance. Donc il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine. Moi, je pense que j'allais dire, c'est un peu comme l'électricité. Chacun l'utilise, il y en a qui l'utilisent plus que d'autres, etc. Je crois que les antibiotiques, on les partage tous et que c'est, j'allais dire, un devoir de chacun, au niveau où il est, à la consommation qu'il en a, de faire des efforts. Je pense que vraiment, c'est un truc mondial. C'est un truc mondial, enfin, si ça touche le monde, si ça touche l'individu. Voilà, je crois que c'est un très bon exemple des extrêmes.
Et alors, que faire au niveau individuel ? C'est-à-dire, nous, tout un chacun, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que trop de bactéries résistantes apparaissent ?
Bon, c'est la chose bien connue, mais je pense qu'ils le redisent dans leur rapport, après avoir fait ces évaluations de coûts, etc. Je veux dire, il y a de la prévention contre les infections à faire. C'est-à-dire que si on ne veut pas utiliser les antibiotiques, il faut diminuer les infections. Donc il y a quand même tout le côté d'hygiène qu'on dit, qu'on redit, qu'il faut redire.
La surtout en cette période, période de gastro-entérite qui s'installe en France, il faut le redire, lavons-nous les mains.
Il faut se laver les mains. Donc ça, c'est une partie des choses. Mais après, c'est vrai que chaque individu ne va pas dire « je ne prends pas d'antibiotiques, il ne faut pas en prendre ». C'est une discussion avec son médecin, donc c'est aussi la formation des médecins. Enfin, voilà, c'est quelque chose de général qui doit rentrer dans les débats, dans la façon de vivre, etc. Et là, je voulais juste dire quelque chose qui me semble important. Il y a un groupe donc j'appartiens qui s'appelle Alliance qui dit il faudrait faire en sorte qu'on demande à ce que les antibiotiques soient mis au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Ben, je pense que ça, c'est un truc symbolique, mais qui montre bien que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. On ne va pas se renvoyer la balle, qui fait quoi. C'est vraiment, on ne peut pas vivre sans les antibiotiques, donc il faut qu'on en ait, il faut les protéger.
Un mot de conclusion de Dominique Dupagne.
Il y a d'une part, en effet, cette possibilité, mais enfin, qui reste quand même un rêve. C'est comme dans le réchauffement climatique avec la combustion des énergies fossiles. Il faudrait vraiment que tout le monde soit d'accord pour le faire. mais il y a aussi une autre solution dont on n'a pas abordé, c'est quand même trouver de nouvelles armes contre les bactéries et donc encourager la recherche et surtout le développement de nouveaux médicaments. Or, actuellement, l'industrie pharmaceutique se trouve avec des contraintes importantes et souvent tout à fait logiques, mais qui stérilisent un petit peu la capacité à sortir de nouveaux produits parce que comme ce n'est pas rentable, bah, finalement, ils se dirigent vers des médicaments contre le cholestérol ou le diabète. Et il y a une espèce de coup d'arrêt à la production de nouveaux antibiotiques qui est assez préjudiciable quand même à la santé humaine.
Continuons de chercher. Merci Dominique Dupagne. Merci Marie-Hélène Nicolas Chanoine d'avoir été avec nous pour cette Une de la Science.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, top départ pour un chantier pharaonique en Amérique centrale. Le Nicaragua a annoncé hier, lundi, le début des travaux d'un canal qui doit relier les océans Pacifique et Atlantique. Ce projet estimé à 50 milliards de dollars, soit 5 fois le PIB du pays, est appuyé par la Chine. Avec ses 280 km, le canal du Nicaragua ferait plus de 3 fois la longueur de celui du Panama. La mise en service est prévue pour 2020, mais ce chantier est controversé en raison de son impact environnemental et sociétal avec des risques de pollution, de sources d'eau potable et des déplacements de population. Des voitures sans chauffeur bientôt sur les routes américaines. La Google Car, la voiture sans conducteur, est prête à passer au test. Google a annoncé hier, sans rentrer dans les détails techniques, avoir assemblé un prototype complet, entièrement fonctionnel de ce véhicule guidé par ordinateur. Cette petite voiture autonome, sans volant ni pédale, pourrait être essayé sur les routes du nord de la Californie pour la nouvelle année. Enfin, une entrée dans l'atmosphère comme si vous y étiez. Nous vous signalons une vidéo publiée par la NASA qui montre les images enregistrées depuis l'intérieur du module Orion lors de son retour sur Terre après son vol test le 5 décembre dernier. On peut y voir le spectacle auquel assisteraient les futurs astronautes embarqués à son bord. Les changements de couleur des gaz ionisés par l'entrée de la capsule dans l'atmosphère et puis le déploiement des parachutes. La vidéo est bien sûr en lien sur le site de La Tête au Carré sur franceinter.fr. Dans un instant, nous partons à la découverte de l'odorat avec notre invité Roland Salès. Pour lui adresser vos questions, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
The garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
What you waiting for? No, what you waiting for?
C'était George Ezra, Blame It On Me.
La tête.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Et qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
On s'intéresse aux odeurs et à notre odorat aujourd'hui dans La Tête au Carré. Je suis en compagnie de Roland Salès, ingénieur agronome. Il a dirigé le laboratoire de neurobiologie olfactive de l'INRA à Jouy-en-Josas. Et il est l'auteur de Odorat et goût avec Rémi Gervais aux éditions Quae. Alors il n'y a pas que les scientifiques qui s'intéressent aux odeurs. Je vous propose d'écouter une artiste norvégienne, Sissel Tollas, qui donne une grande place à la perception des odeurs dans ses créations.
Dans mon travail, je m'efforce d'amener les jeunes enfants à utiliser leur odorat pour appréhender leur environnement. On comprend bien mieux le monde avec le nez. Et les odeurs permettent de fixer les souvenirs en mémoire. L'éducation olfactive est indispensable. On en a assez de regarder. Tout tourne autour de la vue. On comprend bien mieux son environnement avec l'odorat.
On comprend bien mieux le monde et son environnement avec l'odorat. Je voyais acquiescer Roland Salès. Est-ce qu'on a tendance un peu à le sous-estimer, à le surinvestir, notre nez ?
Complètement, on le sous-estime beaucoup dans nos civilisations occidentales au moins.
Ouais.
Alors que l'homme a très mauvaise réputation du point de vue olfactif. On dit toujours que l'homme a un sens un peu faible, dégénéré. Et on s'aperçoit quand on fait des tests que finalement on n'est pas si mauvais que ça. Et que sans doute on a survécu en grande partie grâce à notre nez jusqu'à maintenant.
Oui, donc ça veut dire qu'il est plus performant, plus puissant que ce que l'on pense. Par rapport aux chiens, par exemple, on imagine toujours que l'homme est absolument sous-équipé par rapport aux chiens. Est-ce vrai ?
Alors, c'est vrai sur le papier, c'est-à-dire que l'homme a beaucoup moins de centimètres carrés de muqueuse olfactive dans son nez, il a moins de neurones sensoriels olfactifs, il a un plus petit bulbe olfactif, etc. Mais l'homme, il compense d'une part par son cerveau, et puis par sa culture, la vie en société, qui nous permet de partager beaucoup d'histoires entre nous et d'avoir cette connaissance avant même d'avoir éprouvé une nouvelle odeur, par exemple, puisqu'on parle des odeurs. Donc, on sait que tel ou tel chat a une odeur, même avant de l'avoir senti, parce qu'on nous l'a dit. Ce n'est pas le cas du chien.
Ouais. Et alors d'ailleurs, sur les chiens, on a une question déjà qui nous arrive de Jean-Paul. Les loups et les chiens sont pourvus de grandes facultés olfactives, les loups étant sauvages. Est-ce que la domestication a considérablement fait diminuer les possibilités olfactives ? Est-ce que les animaux domestiques perdent un petit peu leur acuité ?
Alors, sans doute pas. La sélection des chiens... concernant les chiens qui ont le nez long, ceux-là ont gardé sans doute les performances de leurs ancêtres loups. Les chiens au nez court, évidemment, ils ont un dispositif nettement moins puissant et ils ne sont pas forcément aussi performants. Mais néanmoins, les chiens d'Obermann, berger allemand, malinois, eux, ils ont des performances olfactives fantastiques. Il n'y a qu'à voir comment travaillent les chiens policiers, c'est extraordinaire.
Alors, on aura l'occasion de revenir aux animaux dans cette émission, mais intéressons-nous d'abord à nous. Oui, c'est un petit peu égocentrique, mais pourquoi pas, assumons-le. Le bébé reconnaît très tôt, vous l'avez dit, dans le ventre de sa mère, il commence à sentir, et très tôt, il reconnaît l'odeur de sa mère, et puis inversement, la mère reconnaît l'odeur de son petit. Des tests ont été faits, racontez les expériences.
Quand on fait des tests à l'aveugle, par exemple, on fait porter un linge à un bébé, et puis on demande à plusieurs mères de reconnaître parmi tous les linges lequel est celui de leur bébé, pratiquement elles le reconnaissent à 100%. Et les pères sont pas beaucoup...
sont moins bons.
Oui, sont pas beaucoup moins bons. Ils y arrivent aussi. On a une odeur de famille qu'on connaît très bien. Évidemment, on ne saurait pas la décrire parce que finalement, on ne la sent plus. Mais on la partage.
C'est-à-dire même entre frères et sœurs ?
Ah, entre frères, alors oui. Et dans les fratries reconstituées, eh bien, quand on fait ces tests olfactifs, les frères-sœurs biologiques se reconnaissent très bien par rapport aux frères-sœurs de l'autre parent.
Là encore, ça a été testé. Mais ce qui sous-entend qu'il y a une dimension génétique dans l'odeur que l'on dégage et dans la façon dont on l'aperçoit ?
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qu'on sait de ça ?
Alors... On sait un peu plus de choses chez les rongeurs. On sait que vraisemblablement, le rôdeur individuel est très lié à ce qu'on appelle, le complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, c'est un grand mot. Le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est le système du soi, de reconnaissance du soi, de soi-même. Mmh. Hein, c'est ce qui est mis en jeu dans le rejet des greffes. Et bien, vraisemblablement, il y a une étroite intrication entre l'odeur corporelle et ce complexe majeur d'histocompatibilité.
Donc, ce qui fait mon identité au plus profond de mes cellules, hein, sur la surface de mes cellules, ce qui est un peu l'empreinte digitale de mes cellules, est lié directement à l'odeur que je dégage et aux odeurs que je perçois.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est assez surprenant. Est-ce que l'odeur intervient dans l'attachement aussi qui se noue? On était sur la relation enfant-parent. Est-ce que l'odeur joue un rôle?
Oui, alors... Comme toujours dans l'espèce humaine, c'est jamais à 100%, mais l'odeur joue un rôle dans l'attachement ou dans le rejet d'ailleurs.
Mmh. Alors, l'odeur dans nos relations sociales, est-ce que dans nos relations amoureuses aussi l'odeur intervient? On le sait chez les animaux, mais là encore, pour nous, est-ce que c'est vrai?
Alors, chez les animaux, c'est toujours plus simple, ou je vais dire plutôt chez l'homme, c'est toujours plus compliqué. Donc, les odeurs corporelles interviennent vraisemblablement dans l'établissement de la relation et peut-être même dans son maintien. Mais évidemment, il y a tellement d'autres signaux dans la relation amoureuse qu'on a tendance à négliger ce paramètre. Et puis bien sûr, on rajoute des parfums, on rajoute des déodorants, des choses comme ça. Et jamais un parfum, jamais un déodorant n'efface complètement notre odeur naturelle.
Mmh. Ah oui, c'est vrai. Donc à travers ça, notre nez le perçoit, même inconsciemment.
Oui, tout à fait.
Le filtre d'amour existe-t-il? C'est une des questions que vous posez dans votre livre, aux éditions Quoi apparaître. C'est un peu un fantasme. Mais cette idée qu'on pourrait se rendre séduisant auprès d'une personne convoitée en se mettant une odeur. Voilà. Qui lui plaise.
Alors, se mettre une odeur sur soi, finalement, ça rend d'une certaine façon plus séduisant aux yeux de soi-même. Et donc, ça permet peut-être d'être plus séduisant aux yeux de la personne qu'on veut séduire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas, comme dans les espèces animales, comme chez le papillon de nuit, par exemple, ce qu'on appelle les phéromones chez l'homme, qui déclenchent à tous les coups, à 100%, une réaction stéréotypée, enfin de style réflexe, qui ferait qu'on va se sauter dessus les uns les autres.
Finalement, chez l'homme, on a l'impression qu'effectivement, on l'a un peu perdu de vue, si j'ose dire, ce sens de l'odorat, justement parce que la vue, parce que l'ouïe sont largement utilisées et prédominantes. Il y a peut-être un domaine, l'alimentation, dans lequel il prend toute son importance, très lié au goût, l'odorat.
Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, quand on parle du goût dans le langage courant, en fait, on associe les deux sensations. La sensation en bouche, que je vais appeler la gustation pour la distinguer du goût. Parce que le goût, au total, c'est la sensation en bouche plus la sensation dans le nez. Donc, le nez, c'est l'odorat. La bouche, c'est la gustation. Alors, je ne vais pas dire que la gustation est un peu plus pauvre que l'odorat, mais on a moins de récepteurs pour capter les produits qui ont du goût dans la bouche, qu'on a de récepteurs dans le nez pour capter les produits qui ont une odeur. Mmh. Cependant, le goût, c'est vraiment le mélange des deux. Et quand on y pense, quand on mange, on a aussi des signaux auditifs, des signaux de dureté, de température, etc. Et ce qui fait le goût d'un aliment, finalement, c'est cet ensemble parfaitement complexe. Mmh.
Le voyage d'une odeur jusqu'à notre cerveau, comment ça se passe? Comment on capte ces molécules odorantes? En fait, ce qui fait une odeur, c'est déjà, il faut que nous, on arrive à la capter. Hein. C'est avant tout traduire un message chimique dans notre environnement. Alors, comment ça se passe biologiquement, ça?
Vous avez tout à fait raison. Pour qu'un produit chimique qui est dans l'air, porté dans l'air, devienne une odeur, il faut d'abord qu'il soit reçu au niveau de notre nez, dans la muqueuse olfactive. Là, on fabrique des molécules spécialisées qui vont capter les molécules odorantes. Et une fois que ces molécules auront été captées, alors là, les neurones olfactifs, les neurones, c'est les cellules nerveuses qu'on a dans la muqueuse olfactive, ils vont envoyer un message au cerveau. Et c'est seulement une fois ce message décrypté dans le cerveau qu'on va dire « Ah, j'ai senti quelque chose » et même je reconnais, c'est une rose, c'est une banane. C'est...
Pour pouvoir sentir une odeur, il faut être prééquipé du récepteur qui correspond à cette odeur.
Tout à fait.
Et si certaines choses autour de nous n'ont aucune odeur, aucune saveur, comme l'eau qui n'a pas de goût, ou même certains gaz toxiques comme le gaz sarin, on ne le sent pas parce que nous n'avons pas les récepteurs. Ça ne veut pas dire que l'odeur n'existe pas, que la molécule n'existe pas. Simplement, on ne la capte pas.
Parfaitement. Les moustiques,
c'est très
par exemple,
subjectif.
Oui, absolument. Les moustiques, par exemple, sentent le gaz carbonique qu'on émet dans notre respiration, alors que nous ne le sentons pas.
La tête au carré ouvre grand ses narines et s'intéresse à l'odorat. Dans un instant, nous nous intéresserons aux pathologies. Il y en a qui peuvent affecter notre perception des odeurs. Pour adresser vos questions à notre invité Roland Salès, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
C'est bien ça, Massive Attack, Karma Korma. C'est Jean-Michel Montu qui signe la programmation musicale de la Tête au Carré sur France Inter.
Vous voulez faire que ce cuir sente bon, n'est-ce pas, monsieur?
Mais naturellement, et je vais y arriver.
Avec amour et psyché de monsieur Pellissier. Il est mauvais, cet amour et psyché, maître. Il y a un peu trop de romarin dedans et aussi trop de... ça, et de ça.
De la bergamote. Du patchouli. Quoi d'autre?
Ça et ça. Ça et ça.
Du storax.
Il y en a aussi.
Tu as le nez fin, c'est une évidence, jeune homme, mais je...
Mon nez connaît toutes les odeurs du monde. C'est le meilleur nez de Paris.
Non, ne m'interromps pas quand je parle. Tu es plus qu'impertinent et vaniteux. Même moi, je ne connais pas toutes les odeurs.
Un extrait du film Le Parfum de Tom Tykwer. Nous sommes avec Roland Salès, spécialiste de l'odorat. Il est l'auteur de Faut-il sentir bon pour séduire, apparaître en janvier aux éditions Quae. Roland Salès, on l'entend un peu dans cet extrait. Il faut avoir le vocabulaire pour pouvoir décrire ces odeurs. D'ailleurs, Marine, sur Internet, nous demande « Existe-t-il des langues qui ont un vocabulaire spécifique pour décrire les odeurs ?»
Oui, on dit toujours que notre vocabulaire occidental, au moins, est pauvre. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on n'a pas beaucoup l'habitude de l'employer. Il y a certaines civilisations, malheureusement, restreindre des groupes humains relativement isolés et peu nombreux, où il y a vraiment une culture des odeurs et où vraiment les êtres humains sont définis par leur odeur corporelle.
Et même dans notre société, on se rend compte que les œnologues, les nez qui créent les parfums ont un vocabulaire pour décrire ces odeurs beaucoup plus riche que la normale. Vraiment, et tout un presque un jargon qui accompagne l'identification des odeurs.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, c'est nécessaire du point de vue professionnel, évidemment, de pouvoir échanger entre eux et donc d'avoir un minimum de répertoire pour nommer ce qu'ils sentent. Mais il faut bien dire qu'individuellement, ils ont une représentation des odorants qui peut être très différente d'un parfumeur à l'autre ou d'un œnologue à l'autre.
Alors, une question de Valérie, toujours sur Internet. Sentons-nous tous les mêmes odeurs? Est-ce qu'on est équipé du même nez, en quelque sorte?
Eh bien, vraisemblablement, non. Et vraisemblablement, il n'y a pas deux individus sur Terre qui ont le même équipement pour capter les molécules odorantes dans leur nez. Tellement, mais il y a de variations génétiques dans les récepteurs.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand dans une pièce, tout le monde est d'accord pour dire « Tiens, ça sent bon le café »,
on ne sent pas du tout la même odeur de café.
Alors on va dire qu'on ne sent pas tout à fait la même odeur de café. Par contre, on a appris que c'était l'odeur de café. Et ça, c'est très important. Parce que quand on vous dit « renifle, ça c'est du café », plus tard, quel que soit le café que vous allez sentir, vous allez dire « ah ben ça c'est du café ». Et même si vous n'avez pas le même équipement sensoriel que votre voisin, ben on se sera mis d'accord pour dire que c'est du café.
Alors il reste encore des choses à découvrir concernant notre odorat. Une vaste étude vient d'être lancée par des chercheurs du Centre de neurosciences de Lyon. Parmi eux, Mustapha Bensafi. Il vient de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Mustapha Bensafi.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste de l'olfaction. En quoi consiste cette vaste étude sur l'olfaction que vous êtes en train de lancer ?
Bon, en fait, on entend assez rarement parler des troubles olfactifs. Et en même temps, il y a des données qui suggèrent aux États-Unis, en Allemagne par exemple, que ces déficiences en fait, sont très répandues. Et elles pourraient être même associées à des modifications du comportement alimentaire.
Alors quel type de déficience justement touche l'odorat ?
Alors on peut les catégoriser en deux types. Il y a les déficiences d'ordre quantitatif. Donc la première, c'est l'anosmie, c'est la perte totale de l'odorat. Ensuite vient la perte partielle, qu'on appelle hyposmie. Et puis un odorat normal, on va le qualifier de normosmie. Et de temps en temps, c'est une particularité de l'olfaction, on a une pathologie qu'on appelle, enfin c'est pas une pathologie, tout le monde en est affecté en fait, c'est ce qu'on appelle l'anosmie spécifique. C'est-à-dire qu'un individu donné, vous lui présentez une molécule odorante sous le nez, et il va rien percevoir. Et parmi ces anosmies spécifiques, il y en a une qui est très célèbre, c'est l'anosmie à l'androsténone. C'est une grosse molécule volatile qui a une odeur de sueur et 30% de la population mondiale ne la détecte pas.
Et elle est où ? Elle est dans la sueur ? On la trouve uniquement dans la sueur alors cette molécule ?
Alors, ça c'est un exemple en particulier. On peut la trouver dans la sueur, on va la trouver aussi, c'est une odeur caractéristique. Si vous allez dans une ferme, vous vous approchez de cochons, vous allez la sentir aussi.
D'accord. Donc, enfin, si on n'est pas touché par cette affection qui touche quand même 30% de la population, qui ne détecte pas, qui n'ont pas les récepteurs pour sentir cette odeur.
Voilà, alors ça c'est vraiment une anosmie très célèbre, 30%. Puis vous avez plein d'autres molécules. D'ailleurs, j'écoutais l'émission, Roland Salet l'expliquait bien, on n'a pas tous le même nez, donc on n'a pas tous le même matériel génétique, et de temps en temps, il y a un récepteur, ou un, deux, trois récepteurs qu'on ne va pas forcément exprimer de la même manière, et du coup, nos perceptions vont être un peu modifiées, et ça peut se traduire par des perceptions en termes de qualité, on parlait tout à l'heure de café ou de rose, ou qu'on ne va pas percevoir de la même manière, mais qu'on va appeler café ou rose, mais ça peut aussi se traduire en termes d'intensité, on ne va pas le percevoir de manière... aussi forte que notre collègue à côté de nous.
Alors, le but de votre étude, c'est de prendre un échantillon vaste de la population française et justement d'étudier plus finement en quelle proportion on sent quelles odeurs.
Absolument. Donc, on a actuellement pratiquement 4000 participants qui ont déjà donc fait l'étude. Et c'est une étude où les volontaires grattent des petites odeurs sur des papiers de chez eux, par exemple, ou dans des événements socioculturels. Et puis, ils se loguent sur un site internet et ils répondent à un certain nombre de questions relatives à leur odorat et relatives à ces odeurs en particulier. Mmh. Voilà.
Quelles sont les premières conclusions ? Je sais que vous n'avez pas encore publié, donc je ne voudrais pas griller la priorité au circuit classique des scientifiques, mais est-ce qu'il y a déjà des premières impressions après les 4000 personnes qui ont effectué ce test ?
Alors, premières impressions sur des échantillons relativement réduits. On a en fait des troubles olfactifs qui vont différer en fonction de l'âge.
Oui.
Donc avant 65 ans, il y a environ, alors hyposmie et anosmie confondues, environ 10% de la population qui va présenter une baisse de son odorat. Mmh. Et puis après 65 ans, cette proportion, elle peut augmenter jusqu'à 30%.
Oui. Quand on vieillit, pourquoi, Roland Salès, pourquoi perd-on l'odorat quand on vieillit ?
Il y a déjà une perte globale des facultés cérébrales, mais il y a aussi au niveau du nez, sans doute, une diminution de la vitesse de renouvellement de la muqueuse olfactive. Ce qui fait que finalement, on a moins sans doute de neurones et on perd de la sensibilité.
On peut perdre aussi l'odorat suite à un accident, comme un traumatisme crânien. C'est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Guillard, un artiste. La perte de l'odorat a profondément transformé sa production artistique.
Ça, c'est exactement ce que je faisais l'année où j'ai eu l'accident, donc ce que je faisais avant de perdre l'odorat. Et ceci, là, les petits noirs sur blanc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait juste après et que j'allais faire pendant des années. J'ai mis des années avant de retourner à la couleur, de retourner à la matière, de retourner aussi au grand format. Peindre à l'huile sans avoir cette odeur-là, c'est comme cuisiner sans avoir l'odeur. Donc j'ai complètement arrêté la peinture à l'huile et j'ai fait des choses beaucoup plus graphiques. Et je pense que le manque d'odorat faisait, peut-être, beaucoup de jouissance et beaucoup de gourmandise et beaucoup de sensualité, oui.
Oui, Roland Sallès, on se rend compte comment l'odorat, même si on le disait, on le néglige un peu, ce sens, il influence quand même beaucoup. Et on se rend compte, quand on le perd, de la manière dont il nous influençait.
Les gens qui en sont privés ressentent vraiment la vie autrement. En général, ils peuvent même devenir dépressifs à cause de la perte de cette dimension qu'ils ne soupçonnaient pas.
Mustapha Ben Safi, c'est aussi une dimension qui vous intéresse, savoir comment, notamment dans nos comportements alimentaires, une déficience ou une perte de l'odorat peut transformer nos comportements.
Ouais, absolument. Alors, je rebondis juste hein, les chiffres. Hein, c'est vraiment ça. C'est 25 à 30% des patients qui souffrent de troubles olfactifs, hein, qui développent des symptômes dépressifs. Et associé à ça, bien entendu, il y a cette modification qui est souvent. Ce sont des études par questionnaire hein, qui est déclarée, hein, modification du comportement alimentaire. Et donc, effectivement, dans le cadre de notre étude, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand on perd l'odorat, quelles sont les stratégies de compensation? C'est-à-dire, est-ce que le patient va ajouter un peu plus de sel, un peu plus de sucre, un peu plus de ketchup ou de mayonnaise? Et vous imaginez bien, en fait, toutes ces compensations, en fait, eh bien, c'est pas dénué d'effets sur notre santé.
Un mauvais odorat, ça peut se corriger? Un peu comme on se corrige la vue avec des verres?
Alors, il n'existe pas de prothèse olfactive. Ouais. Ça, ce serait, à mon avis, il faudrait axer les recherches là-dessus, mais actuellement, on n'a pas ce genre d'outil. Ouais. Néanmoins, alors, pour les patients, de temps en temps, c'est possible de proposer un traitement. D'autres fois, et la plupart des cas, on ne peut pas réparer cet odorat déficient. D'autres fois, au bout de quelques semaines ou deux ans, on se rend compte que le patient il va récupérer. Et il y a des pistes qui sont prometteuses. C'est l'apprentissage, en fait. C'est se stimuler. Mm-hmm. Alors, on ne connaît pas les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent... on les connaît plus ou moins chez l'animal, hein, mais chez l'homme, on ne connaît pas encore les mécanismes qui vont sous-tendre hein, cet effet d'apprentissage et de maintien ou d'amélioration de l'odorat. Mais on sait que ça marche chez une catégorie de patients, notamment les hyposmiques.
Une toute dernière question, Mustapha Ben Safi. Dans vos études, est-ce que vous avez l'impression que les femmes ou les hommes sont égaux face à l'odorat? Est-ce qu'on sent pareil?
Alors, ça c'est la question qui revient toujours et en fait c'est un facteur qu'on intègre hein, de toute manière dans toutes nos études scientifiques. Hein. On a toujours cet effet du genre qu'on essaye d'estimer. En règle générale, les femmes identifient mieux que les hommes. Identifient mieux que les hommes les odeurs, c'est-à-dire qu'elles vont dire plus correctement que l'odeur, c'est une odeur de rose quand c'est effectivement une rose que les hommes. Les raisons, on ne les connaît pas vraiment. On pense que ce serait hormonal, d'autres pensent que ce serait aussi très culturel. Mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'études qui démontrent clairement la part de chacun de ces facteurs.
Merci Mustapha Ben Safi. Nous poursuivons notre balade olfactive avec Roland Sallès qui va répondre aux questions que les auditeurs vous adressent. Roland, sur la page de l'émission La Tête au Carré sur franceinter.fr.
jeu de la vie épanoui, c'est du tirage au sort. Ça te dirait qu'on taille dans la nuit, façon chasse au trésor. Je nous pousserai des ailes, on prendrait mon fils qui dort. Je te promets pas le Ritz, mais du pastel plein le décor. Presque mort. À Shanghai ou à Paris, on s'occupe, on compte les scores. Viens qu'on trouve une rade, direction sud ou nord. Où les mouettes bavardent, voiliers sur le port.
C'était Makayesh, jeu de la vie sur France Inter dans la tête au carré. Oui, Makayesh, j'y étais presque. Roland Salès, c'est notre invité spécialiste de l'olfaction avec beaucoup de questions qui arrivent sur le serveur de la tête au carré pour vous. La mémoire revient dans plusieurs questions. La mémoire olfactive est-elle bien la plus puissante de toutes nos mémoires? Si oui, comment l'explique-t-on? C'est Marc qui vous pose la question.
Alors, elle n'est peut-être pas la plus puissante, mais elle est la plus surprenante, dans la mesure où
En tout cas, Proust.
Oui, bah, bien sûr.
On cite toujours. On pense tout de suite. D'ailleurs, dans votre livre, vous citez la Madeleine de Proust, bien la sûr. Fameuse.
Bien sûr, qui ne la citerait pas? Les Américains parlent d'un Proust effect, d'ailleurs, ouais. Tellement c'est
devenu un effet scientifique, Madeleine de Proust.
Tout à fait. Alors, elle est peut-être pas la plus puissante, mais elle est la plus surprenante. C'est-à-dire qu'on peut rappeler des émotions, on peut rappeler des souvenirs avec la vue, avec l'audition, avec le toucher, mais du fait de notre faible culture en olfaction, on est surpris finalement par le retour d'une mémoire pour quelque chose qu'on avait complètement négligé. Et la Madeleine de Proust est vraiment l'exemple type. Et il reconstitue complètement le souvenir à partir de l'indice olfacto-gustatif, puisqu'il y a la Madeleine aussi. Hein. Il reconstitue le souvenir, les circonstances, le dimanche matin, la tante Léonie, la sortie de la messe, etc. Donc vraiment, ça met en jeu alors là, tout le cerveau. Mmh. Alors qu'au début, le tractus olfactif, c'est une toute petite partie du cerveau.
Et ça s'explique justement dans la façon dont les odeurs sont traitées par le cerveau, ce lien assez étroit entre la perception des odeurs et la mémoire?
Oui, sans doute, parce que au lieu de subir un pré-traitement comme la vision, comme le message visuel ou le message auditif, le message olfactif, lui, il attaque directement des zones du cortex liées aux émotions et à la mémoire, avant même qu'on ait conscience de l'odeur qu'on a sentie. Et donc là, on réveille d'emblée toute une série de circuits neuronaux dans le cerveau.
Frédéric vous demande, du fait de la prédominance de la vision chez les primates, ne sommes-nous pas inévitablement exposés aux illusions olfactives ? Peut-on y échapper ? Comment ? C'est vrai que, sans parler d'illusions olfactives, vous parlez dans votre livre de l'effet des autres sens sur notre perception. On est influencé par ce que l'on voit, ce que l'on entend. Ça transforme un peu notre perception des odeurs.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Alors c'est relativement difficile à mettre au point des protocoles scientifiques pour démontrer ces interactions. Mais on peut le faire et on trouve d'ores et déjà des centres du cerveau qui sont impliqués justement dans le dialogue entre plusieurs sens. Mais pour citer une expérience toute personnelle, oui. Vous savez que vous avez pu lire dans mon livre que je m'intéresse au théâtre olfactif, c'est-à-dire au théâtre où on diffuse des odeurs. Mais une fois dans une pièce de théâtre où on diffusait des odeurs, il était question à un moment des odeurs de café des villages des Andes. Eh bien, moi comme mes collègues, on a cru sentir le café alors que l'odeur n'était pas diffusée. Donc on peut très bien suggérer des choses.
Oui, donc on a vraiment des mirages olfactifs.
Oui, absolument.
Hein, c'est ça. Est-ce que la peur est communicative par les odeurs? Là aussi, des expériences très étonnantes ont été faites où on se rend compte que le stress, lors d'un examen, est transmissible par l'odeur.
Oui, complètement. Alors, on ne connaît pas les molécules qui en sont responsables. Tout le monde raconte, et ça, c'est sans doute vrai, que certaines armées ont essayé de mettre en boîte l'odeur de peur pour diffuser sur le champ de bataille.
Les Américains y ont travaillé très
sérieusement. Oui, absolument. Mais c'est comme les gaz de combat, si vous voulez. C'est que ça se balade au gré des vents et ça risque de revenir vers l'émetteur. Donc, c'est un petit peu dangereux. Ouais. Et en plus, tout le monde n'y est pas sensible.
Oui, toujours avec cette idée que nous ne sentons pas tous exactement de la même manière et nous ne sommes pas sensibles aux mêmes molécules. Mais cette expérience que vous racontez, où l'on a prélevé des échantillons de sueur sur des candidats à un examen, parce qu'on est tous un peu stressés lors d'un examen, et ensuite on a fait sentir ça à des personnes en regardant leur cerveau par IRM.
Voilà, et on voit que ça active des zones, des émotions, de la peur, enfin de l'anxiété plutôt. C'est pas vraiment la peur là, c'est l'anxiété. Oui. Mais on voit qu'on active les mêmes zones que chez les gens qui éprouvent réellement, enfin en premier lieu, l'anxiété.
Donc être à côté de quelqu'un qui ne dit rien, qui ne parle pas, mais qui a peur et donc qui transpire la peur, peut nous communiquer son stress.
Tout à fait. Et chez la souris ou le rat, on peut montrer que si des parents ont été conditionnés à avoir peur d'une odeur, mais ils la transmettent à leurs enfants sans que les enfants et eu le choc électrique, par exemple, qui a été associé à l'odeur.
Oui.
Donc, il y a une transmission.
Il faut effectivement en parler un peu de ces animaux qu'évidemment vous abordez avec des cas tout à fait étonnants. Déjà, on se rend compte que les poissons sentent. Dans l'eau, on sent très bien et les poissons ont un nez, en quelque sorte.
Absolument. Alors. Si vous regardez bien les poissons à l'étal de votre poissonnier, vous verrez qu'ils ont deux petits trous de chaque côté de la tête, à l'avant de la tête. Ben, c'est leur nez. Et ça, ils marchent exactement comme le nôtre. Et nous, on a hérité à travers l'évolution d'une centaine de gènes de récepteurs olfactifs qui étaient déjà chez nos ancêtres, les poissons.
Au cours de l'évolution, la sortie des eaux a eu tendance à développer un petit peu ce sens de l'olfaction.
Oui, complètement. Les batraciens ont déjà 500 gènes de récepteurs olfactifs et les mammifères, plus de 1000. Ouais.
Et donc, les oiseaux sentent également?
Alors, les oiseaux sentent. On a beaucoup dit que les oiseaux étaient anosmiques, mais il y en a qui ont des performances extraordinaires. Les pétrels, à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres en mer, sont capables de retrouver à l'odorat leur site de ponte, par exemple, ou leur site où sont les petits. Enfin, ils ont des performances tout à fait remarquables.
Les pigeons voyageurs, vous dites que les pigeons voyageurs sentent le paysage.
Absolument. Alors c'est ce qui semble sortir de plusieurs articles que j'ai lus. Effectivement, les pigeons s'orientent, comme beaucoup de migrateurs, avec le soleil, mais contrairement à ce qu'on pensait, c'est peut-être pas tant le champ magnétique terrestre qui les oriente que vraiment les odeurs. Ils ont la mémoire des endroits où elles sont passées.
C'est-à-dire que pendant longtemps, jusqu'à il y a peu de temps, on parlait de mini-boussoles dans la tête des volatiles, avec des cellules, avec des petits grains qui s'aimantaient en fonction du champ magnétique. Et on pensait que c'était un peu une boussole intégrée qui leur permettait de retrouver leur chemin. Il semble que là-dessus, on se trompait.
Voilà, tout à fait. Il semble bien que les pigeons reconstituent un voyage olfactif, en quelque sorte, dans leur mémoire.
Et puis les chiens évidemment qui ont cette réputation d'avoir un nez particulièrement fin et qui peuvent faire des choses assez étonnantes, c'est-à-dire aider la médecine, sentir en fait la maladie. Ça aussi, ça paraît incroyable, expliquer.
Ça c'est tout à fait intéressant. Et au laboratoire, on essaye de travailler là-dessus. Il semble bien que toutes les maladies aient une signature olfactive, qu'on a un petit peu négligée, disons au XXe siècle au moins. Et puis, récemment, il y a eu plusieurs rapports dans la littérature qui ont montré qu'on peut apprendre à des chiens à reconnaître dans l'haleine de patients cancéreux, tuberculeux, enfin des maladies graves, des signes, on ne sait pas lesquels, parce qu'on n'a pas toutes les analyses chimiques, mais les chiens sont tout à fait capables de discriminer des signes entre l'état de santé et l'état de maladie. Mmh. Et ils font des diagnostics très pertinents.
Ouais. Et ça, on n'arrive pas à le reproduire avec une machine. C'est-à-dire que le nez artificiel, le nez qui permet de capter, finalement, puisqu'on a dit qu'il s'agit de capter des molécules chimiques dans l'air, ça n'existe pas.
Alors si, partiellement. Et on n'a pas encore suffisamment de pratique, suffisamment de recul pour que ça passe encore dans les mœurs. Mais ce sont des méthodes beaucoup moins chères, beaucoup plus rapides que toutes les méthodes lourdes d'analyse qu'on utilise à l'heure actuelle.
Allez, encore quelques questions d'auditeurs. Luc vous demande, quand je fais une allergie, principalement au printemps, je n'ai plus d'odorat. Quel est ce phénomène ?
Oui, alors, mais si on vous traite au cortisol, vous allez retrouver l'odorat. En fait, là, c'est l'inflammation des muqueuses nasales qui bouche tout simplement l'accès de l'air à la muqueuse olfactive, et donc privé d'accès, les neurones ne sentent plus rien.
Qu'est-ce que la rétro-olfaction et les flaveurs, vous demande Larry.
Alors la rétro-olfaction, c'est ce qui se passe quand on mange. Quand on mange, on malaxe l'aliment, on le chauffe, donc les produits volatiles contenus dans l'aliment s'évaporent, passent par l'arrière-gorge et remontent dans la cavité nasale, mais non pas par les narines, mais par l'arrière-gorge. On l'appelle rétro parce que c'est en arrière.
Merci Roland Salès. Je rappelle le titre de votre livre qui paraîtra en janvier prochain aux éditions Quae. Faut-il sentir bon pour séduire ? Sans question sur l'odorat. Et pour ceux qui ne pourraient pas attendre, un autre ouvrage déjà paru, Odorat et goût, toujours aux éditions Quae.